Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour, général Patrick Dutartre.
Bonjour, Apolline.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes général de l'armée de l'air, vous êtes pilote de chasse, vous êtes ancien leader de la patrouille de France. On a particulièrement besoin de vos lumières pour essayer de comprendre ce qui se joue. J'allais dire même à l'instant où l'on se parle, Emmanuel Macron vient de dire sa préoccupation face à un cessez-le-feu que l'on sent fragile. Il a été annoncé hier soir par Donald Trump. Il était censé entrer en vigueur à partir de 23h heure française cette nuit. Mais semble-t-il, Israël d'un côté, le Hezbollah de l'autre, ont déjà montré que ce cessez-le-feu était particulièrement fragile. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut espérer?
Il faut toujours y croire. Hein, de toute manière, c'est quand même une excellente nouvelle. Mais est-ce que ça va tenir? C'est effectivement la question. C'est pas la première fois qu'il y a eu des cessez-le-feu, et chaque fois en fait ça a dégénéré entre, non pas entre le Liban et Israël, mais entre le Hezbollah et Tsahal, qui réagit immédiatement à des tirs de provocation.
La vraie question c'est celle-là, c'est qu'effectivement on parle de deux acteurs, mais en réalité il y en a trois.
Bien sûr.
Les deux acteurs qui semble-t-il sont prêts à se parler, voire même à aller vers la paix. Donald Trump dit que les deux protagonistes veulent aller vers la paix, c'est le Liban et Israël. Mais il y a un troisième personnage qui en quelque sorte est effacé de la photo, mais qui a évidemment un rôle majeur, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah qui, pour l'heure, refuse ces discussions et ce dialogue. Est-ce qu'on peut imaginer donc que ce dialogue et que ce cessez-le-feu puisse véritablement tenir?
Ça tiendra si l'Iran fait suffisamment de pression sur le Hezbollah. Parce que effectivement, le Hezbollah était même contre cette rencontre un peu historique, hein, le plus de 40 ans qu'il n'y a pas eu cet échange en fait un peu formel entre les Israéliens et les Libanais. L'annonce de Trump est quand même une très bonne annonce parce que ça augure d'un possible cessez-le-feu. Mais est-ce que les Libanais sont en position de faire respecter ce cessez-le-feu? C'est toute la question. Et le Hezbollah étant contre, on espère quand même que l'Iran va être suffisamment persuasive pour demander au Hezbollah de arrêter les tirs, ce qui permettrait de faire une bonne chose pour ce cessez-le-feu.
Si on dézoome, et effectivement, l'Iran aujourd'hui se retrouve dans cette position très complexe, où on a eu l'impression il y a une semaine qu'elle avait repris la main en quelque sorte, ou qu'elle avait une sorte de jaillissement de dernière puissance avec ce blocage du Détroit. Le blocus du blocage l'a à nouveau, semble-t-il, affaibli. A-t-elle intérêt à ce que le Hezbollah poursuivre, ou est-ce qu'au contraire elle a intérêt à ce que tout se fige?
En fait, l'Iran a demandé en fait que les bombardements cessent sur le Liban et donc sur le Hezbollah. Donc il faut que une certaine logique soit respectée. Pourquoi? Parce que c'est le déclencheur. La fin des tirs du Hezbollah, la paix entre guillemets, ou au moins cesser le feu, parce que rappelons que c'est que pour 10 jours, et j'espère que ça se prolongera, donc une certaine stabilité au Liban. Puis on parle de l'Iran, est-ce qu'on arrive à avoir un accord au niveau du nucléaire? Et si on arrive à avoir un accord sur le nucléaire militaire iranien, eh ben on aura le détroit d'Hormuz, et donc la libération de ce fameux détroit.
Donc c'est comme des dominos.
Absolument, ça c'est quelque part c'est en cascade, et c'est pour ça que c'est important que ce cesser le feu puisse fonctionner.
Alors avant de s'intéresser aussi à la question de l'Iran, à la question ensuite du rôle de la France, il y a cette conférence à 14h aujourd'hui avec certains de nos alliés organisée par la France sur la question de la suite de la libération du détroit d'Hormuz. Mais si l'on en reste effectivement à ce qui se joue en ce moment même dans le sud Liban, d'un côté, Benjamin Netanyahou dit « Nous avons, je cite, l'occasion d'une paix historique avec le Liban », mais de l'autre, les forces armées israéliennes affirment qu'elles vont rester présentes dans cette bande de 10 kilomètres au sud du Liban. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire ?
Pas totalement, si l'accord se poursuit, parce que rappelons que c'est un cessez-le-feu de 10 jours. Donc si vraiment ça se consolide, on arrête les tirs, là il sera question de négocier évidemment un cessez-le-feu beaucoup plus long, et là évidemment un retrait des forces israéliennes dans le sud Liban.
Il faut ce retrait.
Mais bien sûr qu'il faut ce retrait, mais on peut comprendre que Tsahal veut mettre les choses dans l'ordre. D'abord qu'on arrête de tirer de part et d'autre, et ensuite on fera ce retrait.
En termes de choix stratégiques, militaires, ça vous paraît logique?
Oui, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Si on était aux commandes, on ferait là exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on maintient les positions. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité d'Israël quand même. Ce serait tellement simple que le Hezbollah arrête de tirer, mais on a bien vu que ces choses-là sont enchaîne avec ce qui se passe en Iran.
Le Hezbollah qui répond effectivement que les pourparlers sont une forme de capitulation, qui revendique effectivement des tirs de roquettes aussi vers Israël. Mais ce matin, semble-t-il, c'est Israël qui à nouveau a tiré le premier.
Alors je ne sais pas si Israël a tiré le premier, c'est extrêmement difficile chaque fois de savoir qui fait en premier. Vous savez, ça peut être la veille à minuit moins une, et à minuit une, c'est l'Israélien par exemple qui répond. Donc c'est tout à fait normal dans un cessez-le-feu, après des campagnes assez intenses de tirs de part et d'autre, qu'il y ait encore des tirs, ce qu'on appelle sporadiques. Mais
ça n'obère pas pour vous la possibilité.
Ça n'obère pas.
Au fond, le fait que les premières heures de cessez-le-feu soient fragiles. C'est presque habituel.
Oui, c'est presque habituel. C'est partout pareil en fait quand il y a eu des quelque part un conflit d'une certaine intensité.
Chacun veut être le dernier à tirer. Est-ce qu'il y a un peu de ça en général?
Ça peut. Il faut quand même qu'il y en ait un moment qui s'arrête, et on espère que Tsahal va avoir un peu de sang-froid aussi pour ne pas répliquer systématiquement, si vous voulez, à un ou deux tirs roquettes qui poursuivraient. Mais évidemment, si ces tirs sont plus importants que ça, il faut que Tsahal réplique.
Au milieu de ça, il y a aussi la question de la FINUL, on va y revenir, et de certains de nos propres militaires qui sont sur le terrain au Liban. Quelles sont les chances aujourd'hui d'aboutir effectivement de ces pourparlers? Est-ce que la clé, c'est donc le Hezbollah et sa question militaire, la militarisation ou la démilitarisation du Hezbollah?
Moi, je crois que la clé, c'est l'Iran qui fasse suffisamment pression sur le Hezbollah pour que le Hezbollah arrête. C'est vraiment le point clé, à mon avis. Si le Hezbollah arrête de tirer sur Israël, Israël, même si elle avait envie de poursuivre, parce qu'elle a quelques objectifs encore en ligne de mire, Donald Trump a mis suffisamment de pression sur Benjamin Netanyahou, parce que Donald Trump veut que ça s'arrête également en Iran, et veut libérer le détroit d'Hormuz.
Alors il veut que ça s'arrête et il veut libérer le détroit d'Hormuz. On verra aussi quel rôle nous-mêmes, Français, oui, Occidentaux, pouvons jouer là-dessus. On est encore, en réalité, on n'en parle plus parce qu'on a l'impression effectivement que les choses se sont calmées, mais on sait qu'il y a quelques jours encore, un de nos rafales a détruit un drone dans le ciel irakien. Est-ce que ça veut dire que malgré une sorte de calme apparent, nous sommes aujourd'hui très engagés?
Oui, nous sommes engagés défensivement. Hein. Le président de la République ne s'en est pas caché. Hein. On a des forces à la fois en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis. On a des accords de défense très très étroits avec les Émiratis. Et dans ce cadre, vous avez des aviateurs français qui volent tous les jours. En fait, il n'y a pas que des aviateurs français. Il y a aussi des pilotes d'hélicoptères qui volent tous les jours pour intercepter notamment les chaïds ou faire une sorte de défense de zone, si vous voulez, multicouche.
Général Dutartre, on parle des bateaux dans le détroit d'Hormuz, mais sur ces bateaux, il y a des hélicoptères, il y a parfois même des avions qui survolent la zone. Vous êtes le général de l'armée de l'air. Comment on fait quand on a l'impression de quelque chose de si dissymétrique entre un Rafale d'un côté, un drone iranien de l'autre? Ça marche comment?
C'est simple, c'est que...
Pardon de vous poser cette question, mais j'ai l'impression d'une telle dissymétrie physique, quasiment.
Oui, mais ça ne nous a pas empêché. En fait, d'abord, le drone, c'est un objet volant, hein, non piloté directement. Il n'y a pas de pilote à bord. Et donc, les chasseurs sont parfaitement armés pour faire ça. La seule grosse difficulté, on la connaît bien, c'est que nos missiles sont faits pour détruire des avions de combat adverses de 50 à 100 millions d'euros. Et là, on a des drones. Donc, on va utiliser des missiles qui coûtent quand même 500 000 euros pour détruire un petit engin, si vous voulez.
Qui lui-même coûte 30 000 euros.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des défenses complémentaires qui sont développées, des roquettes guidées laser, l'emploi d'hélicoptères, et surtout il faut qu'on développe, à mon avis, toute une défense de drones anti-drones qui serait la réponse qui nous semble quand même la
quand
mieux
vous
adaptée.
Dites, il faut qu'on le développe, c'est que est-ce qu'on s'est un peu trompé, est-ce qu'on a les capacités de s'adapter vite, c'est-à-dire est-ce qu'on est suffisamment agile pour comprendre que en gros, nous, on a fait le nucléaire, et là-dessus, on se disait, puisqu'on a le nucléaire, il ne peut rien se passer. Et puis on se rend compte que ce soit en Ukraine ou en Irak, les guerres, elles sont aussi conventionnelles, avec des missiles en dessous du nucléaire. Et puis encore en dessous, on redécouvre, au fond, ces dernières semaines, la question du drone. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'échelle?
On essaie de couvrir tout le spectre, mais il est évident que, franchement, je pense qu'on a manqué de pragmatisme, non seulement les Français, mais surtout les Américains, en fait, les alliés de manière générale. On a observé avec beaucoup d'attention, mais sans prendre forcément les mesures de ce qui se passait sur le théâtre ukrainien. Les chaïds, c'est pas une surprise. On aurait dû, à mon sens, avoir des programmes, ce qu'on appelle des crash programmes, si vous voulez, de drones anti-drones, d'autant plus qu'on sait faire, en fait. Mais il faut une volonté, il faut...
Il faut des commandes.
Il faut des commandes, il faut être extrêmement pragmatique, il faut aller plus vite que les procédures normales. Il faut se mettre, évidemment, dans une économie et une procédure militaire qui soit adaptée, si vous voulez, à la menace.
Au moment où on se parle, Général Patrick Dutartre, est-ce que vous voyez un avantage? Qui a l'avantage? Est-ce que Donald Trump a repris l'avantage?
Manifestement, à mon sens, il a repris la main avec ce blocus, non pas du Détroit, hein, mais des ports iraniens. On a vraiment l'impression, et il le dit lui-même d'ailleurs, que c'est quelque chose dont touche au portefeuille en fait de l'Iran et du coup des gardiens de la révolution. Et manifestement, ça a une conséquence. Mais c'est aussi une conséquence pour le monde entier, hein, parce que la Chine se plaint évidemment de plus avoir ses importations de carburant, l'Inde également, et puis nous-mêmes à la pompe tous les jours, on se plaint quand même de l'augmentation du prix de l'essence. Donc c'est une conséquence
tournant,
mondiale.
Malgré tout, le fait de créer un blocus du blocage et des ports.
Oui, manifestement, c'est un coup d'échec très bon. On verra le suivant, mais celui-là, c'est effectivement une pièce majeure.
Il y a cette conférence à Paris à 14h sur la sécurisation du détroit d'Hormuz. Seront présents autour d'Emmanuel Macron le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Il y aura également 30 autres pays qui seront en visioconférence associés à cette conférence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel peut être notre rôle?
Être garant du droit international, quelque part, c'est montrer que 40 pays se disent, écoutez les gars, c'est bien ce qui se passe là-bas, mais nous, on veut une liberté de circulation sur les mers et dans les détroits. Donc, un, montrer cette volonté. Deux, voir qui peut participer, si vous voulez, à une sorte de force de surveillance. Ça va pas être une force d'interception, mais une force de surveillance dans les détroits d'Hormuz, voire la mer Rouge. Ça peut être tout simplement une extension, si vous voulez, de ce que l'Europe fait déjà, la mission Aspides, si vous voulez, en mer Rouge, pour s'assurer de la sécurité du passage en mer Rouge, et notamment au large du Yémen, et de faire quelque part la même chose dans le Golfe de...
Alors, il y a la diplomatie et il y a le militaire. On va revenir évidemment sur le rôle. Quelles pourraient être nos armes de dissuasion de ce blocage là-bas et de facilitation de la fluidité de la navigation? Le fait que Emmanuel Macron et Keir Starmer aient insisté pour que les États-Unis ne participent pas à cette conférence, c'est important. Que ce soit autre chose, que ce soit ceux qui sécurisent, qui défendent et non pas ceux qui participent à la coalition.
Oui, c'est montrer d'abord qu'on a une position qui est différenciée, qu'il y a une quarantaine de pays qui disent, oh là, mais nous on veut avoir notre mot à dire dans la libre circulation des mers. Et puis après des forces, des attaques, si vous voulez, qu'il y a pu y avoir entre les Américains et les Iraniens, que ce soit quelque part une force qui n'a pas participé au conflit, qui participe à cette sécurisation, et ce qui permettra surtout d'éviter je dirais une forme de raquette, et que l'Iran reprenne aussi l'idée de bloquer ce détroit à partir du moment où il y aura des appareils
militaires. Elle n'oserait plus, elle ne pourrait plus, parce qu'on en dissuaderait,
si vous avez des forces militaires en permanence dans le détroit, ça limitera, si vous voulez, la capacité de reblocage.
Vous parlez de cette question de raquette, et ça a été vraiment mentionné par Emmanuel Macron et par les participants à cette conférence. L'objectif, c'est 1, Téhéran ne doit pas viser les navires commerciaux, Washington ne doit pas bloquer les flux maritimes, ça c'est pour s'adresser aux deux parties, et Paris insiste sur 2 lignes rouges, pas de mines, pas de péage imposé aux navires. Les mines, comment on peut s'en assurer?
La première chose qu'il faut faire, c'est aller voir. Vous savez que même les Iraniens sont pas totalement sûrs de savoir s'ils en ont mis ou pas, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que ils ont été extrêmement perturbés quand même par les 35 jours de bombardement. Je vous rappelle que les Américains visaient en particulier toutes les vedettes rapides des gardiens de la Révolution dans le Détroit. Donc, ils n'ont plus beaucoup de moyens de voir ce qui a été mis ou pas mis, en fait. Et puis, s'il y avait des mines, par exemple, flottantes, c'était aussi contre les intérêts iraniens. iranien. Donc, il est possible qu'il en ait, on n'est même pas sûr, mais il faut aller voir quand même.
Général Dutartre, sur la manière dont on sécurise, effectivement, et dont on fluidifie, on a bien compris que ça n'interviendrait qu'une fois qu'il y aurait une vraie stabilisation hein, de ce cessez-le-feu, voire même de la paix. C'est quoi ? C'est des bateaux ? C'est des avions prêts à survoler la zone à tout moment ? Ce sont des hélicoptères ? Quels sont nos moyens, les moyens dont on peut aussi faire la démonstration.
Oui, vous avez cité les trois principaux, des drones aussi qui peuvent surveiller tout simplement qu'il n'y a pas des vedettes qui viennent poser une mine ou qui voudraient intercepter un navire, surveillance des côtes. Mais tout ça, ça fera l'objet, à mon avis, de l'accord global qui sera fait entre les États-Unis et l'Iran. Et puis après, vous avez des navires en permanence et puis des avions qui sont capables d'intercepter toute menace éventuelle. Donc avec ce dispositif, mais ce sera une fois qu'il y aura un accord global.
Bah si on veut être dans le défensif, il faut que la guerre se soit arrêtée.
Mais oui, c'est ce qu'elle propose le présent, absolument.
Général Dutartre, je voudrais quand même vous poser une question sur les capacités de nos alliés. Je ne parle pas là des États-Unis, mais nous serons tout à l'heure avec les Britanniques, les Allemands, les Italiens. Alors les Allemands, on le sait, recommencent à s'armer après avoir longtemps, évidemment après la Seconde Guerre mondiale, refusé de se réarmer. Les Britanniques, on l'entend, une grande fierté, notamment de leur flotte. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même surpris d'une forme de faiblesse? Est-ce que dire cela, c'est parce que je suis chauvine et que on est sans cesse en train de se féliciter de notre démonstration de puissance avec notamment notre porte-avions qui a été un des premiers à pouvoir arriver sur zone, ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'aujourd'hui l'armée britannique est plus faible qu'elle n'était?
Ben c'est une observation que je partage en fait hein. On est tous à observer le fait que les Britanniques ont peut-être été moins vigilants que nous, en fait, même si on a beaucoup désarmé, on peut le comprendre après 35 ans de fin de guerre froide, mais c'est vrai que l'état de la flotte britannique est préoccupante.
On est saisi, effectivement, on est surpris par l'état de la flotte britannique.
Franchement, on est surpris. Alors maintenant, il faut rentrer dans le détail. Hein. Il y a peut-être un épiphénomène. Pourquoi ? Parce que il y a une conjonction de maintenance qui a été peut-être qui est mal tombée, si vous voulez. Mais effectivement, on n'a pas vu beaucoup de bateaux britanniques disponibles pour faire des missions, soit en Méditerranée, soit bientôt dans le Golfe d'Oman.
Vous le dites, vous, les militaires, le président de la République le dit aussi. Pour être libre, il faut être craint. Avons-nous les moyens de l'être ?
On n'a pas mis les moyens, franchement, ces dernières années. On est resté sur notre dissuasion et d'avoir, si vous voulez, le minimum vital sur toutes les composantes. C'est vrai qu'on sait tout faire, mais on n'a absolument pas la profondeur stratégique. Donc la première chose, c'est qu'il nous faut des munitions et puis remonter en puissance dans toutes les armées.
Au moment où l'on se parle, en général, on a presque l'impression que c'est comme s'il y avait une sorte de pause dans ces moments où tout d'un coup on réentend le silence. Ça ne va peut-être pas durer, mais dans ce moment-là, est-ce que vous pouvez dire que Donald Trump a réussi jusqu'à présent à peu près son coup militaire ? Maintenant, il va falloir écrire la suite.
C'est ça, il faut réussir la paix. En fait, il faut réussir à trouver un accord. C'est pas facile quand même, hein, avec les Iraniens qui sont extrêmement attachés à leur enrichissement nucléaire de matière dans un but de. Il y a pas d'autre but de l'enrichissement au-delà de 60%.
Oui, il y aurait une forme d'hypocrisie à continuer à penser.
Absolument. Il y a une forme d'hypocrisie et donc il était, à mon avis, temps de mettre un coup d'arrêt
à
cette chose-là.
Pour autre chose, quoi.
Voilà.
Non,
il n'y a pas d'autre chose aujourd'hui. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc il faut trouver l'accord là-dessus. Si on a trouvé cet accord, d'ailleurs, je rappelle que les Américains veulent un accord sur 20 ans. Ça veut dire que quid après. Et les Iraniens disent une pause pendant 5 ans.
Et 5 ans, évidemment, ça ne vous paraît pas suffisant. Merci, Général Patik Dutartre, d'avoir décrypté avec nous ce moment que l'on est en train de traverser. Et on continue évidemment à l'analyser sur BFM TV, notamment.